des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au guide de l'auto édition du 28 mars 2020. Oui, on est encore là.
On lâche pas.
Studio désinfecté, Germain est à l'autre bout du studio.
Moi aussi, je suis désinfecté.
Même si le studio est grand comme un garde-robe, on est capable de se distancer un peu, donc c'est pas pire. Pas le choix de parler des impacts du COVID-19 actuellement sur l'industrie automobile.
C'est juste ça qui se passe de toute manière.
Et il y a beaucoup d'incompréhension face à ce qu'on peut faire, face à ce qu'on ne peut pas faire par rapport à l'industrie automobile. Est-ce qu'on peut faire réparer son véhicule, faire réparer la carrosserie? Est-ce qu'on peut s'acheter un véhicule neuf ou un véhicule d'occasion? Bien, on va avoir en deuxième partie de l'émission Robert Poetti, président directeur général de la CCAQ, qui va être avec nous un peu plus tard pour répondre à ces questions-là et un peu démystifier là, les interrogations qu'on peut avoir, parce que là, évidemment, ça sort de tout bord, tout côté. Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut pas faire?
Il y a eu des évolutions, même cette semaine, beaucoup d'incompréhension.
On avait fermé des ateliers de carrosserie. Ils ont réouvert parce qu'on a changé d'idée sur quelle était la définition des services essentiels. Acheter un véhicule, on peut maintenant le faire, mais il y a une procédure à faire. Donc, c'est intéressant.
Puis un peu comme la semaine passée, l'émission est enregistrée là, la veille de la diffusion, donc le 27, finalement. L'actualité va très, très vite. Fait que ça se peut que si vous écoutez l'émission dans 2, 3, 4, 5 jours, une semaine, les choses ont changé, finalement.
Oui, voilà, exactement. Bon, on va commencer par quelques actualités locales en mentionnant que les péages de l'autoroute A25 et A30 sont maintenant abolis.
Oui, voilà. Donc, l'autoroute 25 là, qui relie Montréal et Laval dans l'Est, si on veut, c'est ouvert librement. Puis même chose
alors
pour...
Moi, je vais aller m'amuser aujourd'hui faire 28 passages aller-retour, juste pour en profiter parce
pour,
que...
Pour en avoir pour notre argent, c'est
ça,
important. Trois pièces à la fois, il faut les compter.
Oui, puis on va pouvoir le faire plus rapidement que jamais parce qu'il n'y a pas un chat sur les routes.
Voilà.
Et d'ailleurs, je salue tous les chroniqueurs circulation du Québec qui actuellement pourraient mentionner un achalandage dans le service à l'auto d'un restaurant Tim Hortons.
C'est à peu près tout ce qui est achalandé en ce moment.
C'est incroyable. Les routes sont vides.
Jusqu'à il y a quelques jours, il y avait encore beaucoup de chantiers d'ouvert, mais là, là c'est même plus le cas.
Non. C'est vraiment, vraiment vide. Donc, puis ça nous fait réaliser à quel point... on a des courtes distances à parcourir qui deviennent interminables. Moi, je demeure à 25 km du bureau ici au centre-ville, mais sur la rive nord de Montréal. Et des fois, ça peut me prendre 90 minutes, 1h45 pour me rendre à 25 km de distance. Et là, je le fais en 25 minutes.
Tout à fait.
C'est incroyable.
Moi, tu vois, c'est un trajet qui me prend en ce moment là, un petit peu moins de 20 minutes. Ben, d'habitude, c'est au-dessus de 40 là, à la même heure. Donc, puis je suis déjà sur l'île. Là. Fait que voilà.
En même temps, je te dirais aussi que de pouvoir circuler librement sur Christophe Colomb aujourd'hui pour m'en venir au bureau... Écoute, la rue...
Ça t'a fait réaliser à quel point c'était endommagé.
Elle est détruite, mais complètement, cette rue-là. C'est épouvantable.
Puis si tu prends Papineau, c'est pas mieux.
Bien, au moins, on a corrigé quelques trucs sur Papineau. Là. Bon, on a aussi trouvé la bonne idée d'abolir une voie pour que la route se magane moins rapidement. Mais ça, c'est...
Ah, c'est pour ça qu'ils ont coupé la voie. Je comprends.
Un jour, on aura peut-être la vérité.
Fait que autoroute 25, autoroute 30, tout ça est ouvert librement. Donc, vous pouvez passer sans qu'il y ait de facturation.
Oui, on a aussi aboli
c'est
de façon...
C'est jusqu'au 13 avril, hein, donc c'est limité. Peut-être que ça va être prolongé si jamais on se rendait compte que si la crise s'étendait.
Ouais.
Mais pour le moment, c'est jusqu'au 13 avril seulement. Et sinon, autre nouvelle dans l'industrie automobile, la production de la Polestar 2 a commencé en Chine. Donc, une nouvelle qui n'a rien à voir avec le virus, avec la pandémie. Apparemment, la situation Et s'est amélioré en Chine au point de reprendre certaines activités, dont la production de la Postal 2.
Serait-ce le début d'une bonne nouvelle?
Peut-être.
Ou serait-ce une imprudence de la part des Chinois qui veulent quand même fabriquer... Faut mentionner que ça sera la première voiture 100% électrique commercialisée par... Bon, je dis Volvo, là, parce
Ouais, c'est une sous-branche de Volvo.
Puis encore aujourd'hui, je me permets de te dire que la marque Polestar... Ouais. J'ai bien de la misère à y croire. Ce plan d'affaires-là me laisse très perplexe et j'ai hâte de voir comment on va commercialiser ça avec des boutiques.
Des boutiques qui ne sont pas des concessionnaires, mais qui appartiennent à des concessionnaires. Tu sais, c'est...
Écoute, là, c'est pas en mettant un magasin dans un Carrefour Laval puis aux Galeries d'Anjou que tu vas réussir à vendre des voitures. Là. Je m'excuse. Là. On verra ce que ça va donner, mais à tout le moins, cette voiture-là qui semble très intéressante et dont le prix de départ sera d'autour de 70 000 $ voiture 100% électrique.
Oui, puis on parle là, tu sais, de 400 chevaux, 500 km d'autonomie. Ouais. Tu sais, c'est des données intéressantes.
Ben, il y a une belle gueule aussi, ça faut le dire. Mais lorsqu'on s'installe à bord, d'abord, c'est très épuré.
Tu as pris place dans ce véhicule-là?
Oui, j'ai pris place dans ce véhicule-là. C'est très épuré et c'est authentiquement Volvo. Là.
Oui.
Et c'est donc la distinction entre Polestar et Volvo n'existe pas vraiment. Je pense aussi qu'il faut, malheureusement, si on continue dans les mauvaises nouvelles, parce que ça, c'en était pas une. Bon, on peut peut-être mentionner aussi que le dévoilement de la Genesis G80 se fait de façon officielle, mais en ligne.
Oui, comme Hyundai a fait avec l'Elantra, finalement, la semaine passée.
Hyundai a fait avec l'Elantra, voilà. Mais on a appris, malheureusement, le retrait des voitures du Grand Granby International. Donc, les voitures anciennes de Granby n'auront pas lieu cette année.
On va revenir rassemblement en fin d'émission.
Ouais, un gros rassemblement qui attire 35 000 personnes, ça n'aura pas lieu. Le Grand Prix du Canada, lui, ne sera pas annulé.
Oui, voilà. Donc, c'est ce qu'a dit le promoteur, là, François Dumontier, a dit que, s'il devait être reporté, ce serait une chose, mais... être annulé, ça n'arrivera pas. C'est ce qu'il a mentionné. Et on devrait savoir là, sous peu si l'événement va avoir lieu en juin comme ça devrait, donc le 14 juin. Mais
est-ce que le Grand Prix de Montréal est capable de se passer d'une année sur le plan financier?
Ben, on s'en est déjà passé d'une édition, si je me rappelle bien, au milieu des années 2000. Ça a été un coup très difficile.
Ouais.
Parce que quand tu coupes les habitudes des gens, voilà. Hein, donc, le Grand Prix pourrait être là, repoussé peut-être là, au mois de septembre, par exemple.
On verra. J'ai l'impression que le mois de septembre va être bien achalandé.
Oui, voilà. Si tout ce qui devait se passer entre le mois de mars et le mois de juin se passe au mois de septembre, on va courir un peu partout. Et même, tu sais, est-ce que le Grand Prix de Montréal peut se passer d'une année? Est-ce que la ville de Montréal.
Non, mais c'est un peu ça aussi.
Peut se passer
les retombées économiques de cet événement-là.
En hôtel, en restaurant, combien il y a de touristes? Tu le sais, à chaque année, l'entreprise familiale loue un emplacement en plein centre-ville pour vendre des voitures miniatures.
Bon, t'as toujours les hurlus-berlus qui viennent se plaindre que des voitures de course, ça pollue sur un circuit.
On est d'accord.
Alors, pendant qu'il y a 20...
Mais il y a tellement de touristes, Antoine.
Non, mais moi, ma réponse à ça, elle est simple. Ouais. Pendant qu'il y a 20 voitures qui tournent sur un circuit, il y en a 45 000 qui ne bougent pas dans la ville.
Oui, puis il y a plein de monde qui prennent le métro pour se rendre, qui ne prennent jamais le métro dans leur vie non plus. Là. Mais il y a tellement de touristes. C'est le moment de l'année où je vois le plus de touristes. Jamais je vais parler français dans cette fin de semaine-là parce que je vais parler anglais en masse, espagnol puis chinois s'il faut.
Ah, bon?
Il y a énormément de touristes.
Ton chinois est assez aiguisé?
Oui. Okay. Si le Grand Prix devait être annulé, même si c'est pas dans les plans, je pense que ce serait extrêmement difficile pour toute la ville.
Les 500 000 d'Indianapolis, aussi, c'est un gros événement. Ça sera reporté.
Oui, exactement. Donc, c'était prévu pour le 24 mai, on s'entend. Là, c'est comme après-demain, ça. Ouais. Là. Puis, on a bien vu cette semaine que la situation était très, très, très complexe aux États-Unis avec la gestion de ce virus-là. Donc,
par un président qui en est un lui-même. Si
on est bien d'accord. Et donc la course a été reportée au 23 août, Donc, est-ce que tout va être réglé d'ici là? J'en ai aucune idée. Le même week-end, on aurait aussi des courses NASCAR sur ce circuit-là. Et on sait bien que...
C'est pas la même clientèle.
C'est pas la même clientèle. C'est pas non plus le même, en bon français, branding. Donc, je suis pas certain que tout ça peut très bien se côtoyer.
Écoute.
Mais ça arrive très rarement là, que ces deux types de voitures de course se retrouvent ensemble. Donc, on est d'accord, là, ce sera pas en même temps, mais toujours est-il que le même week-end...
Non, si c'était en même temps, ça serait... En fait, j'aimerais savoir ça.
Ça ferait un beau spectacle,
oui,
mais
ça, c'est sûr.
Toujours est-il que IndyCar et NASCAR, au même endroit, la même fin de semaine, ça va être spécial.
Ouais.
Véhicule de la semaine, Antoine, Mazda CX-30 dans ton cas?
Mazda CX-30 dans mon cas, écoute... Moi, j'avais conduit ce véhicule-là du côté de la Californie lorsqu'on l'a dévoilé. Et c'est pas compliqué, le Mazda CX-30 est à la Mazda 3, ce que la Subaru Crosstrek est à l'Impreza. Donc, tout ce qui est sous la carrosserie du CX-30, ouais, c'est une Mazda 3. À l'exception que
ce qui n'est pas une mauvaise chose.
À l'exception que le véhicule est surélevé.
Ouais.
Okay? Trois versions. Les deux versions, donc GS, GT, moteur 2.5, version GX de base avec le moteur 2 litres. Automatique seulement. Rouage intégral optionnel, sauf dans le cas de la GT. Comme la Mazda 3, on a amélioré de beaucoup la finition intérieure, la présentation intérieure. On est à jour sur le plan technologique. Le look est quand même assez distinctif. Moi, je pense que c'est totalement réussi. Mais ça demeure un véhicule peut-être un peu plus étroit que la moyenne.
Mais plus spacieux quand même que le CX-3.
Ah oui, oui.
On n'est pas là, là.
Puis chez Mazda, ce qu'on dit, c'est que le CX-3 demeure au catalogue. C'est vrai. Il y a des CX-3 2020 qui existent. Mais comprenez que le CX-3, là, c'est un succès local. Il n'y a que les Québécois qui achètent ça. Les ventes... je retourne aux chiffres de 2018, là, parce que j'ai pas ceux de 2019 en tête.
On va le pardonner.
Mais pour vous donner 2018, on avait vendu 12 000 CX-3 au Canada, 6 000 au Québec.
Ouais.
Et 19 000 CX-3 aux États-Unis.
Donc, ça n'a pas rapport.
Donc, normalement, si tu vends 120, c'est-à-dire 12 000 CX-3 au Canada, tu en vends 120 000 aux États-Unis.
Tu appliques la règle du x10, puis généralement, là, c'est ce qu'on peut observer.
Ça. Et tu vois, le CX-3, les concessionnaires Mazda aux États-Unis n'en commandent même plus. Puis, attendez-vous à ce que pour 2021, il n'y en ait plus, tout simplement. On va y tirer la sauce ici au Québec parce qu'on est capable de garder le CX-3 comme modèle d'entrée de gamme pas cher.
Voilà,
qu'on va probablement liquider à la fin sous la barre des 20 000 $ le modèle d'entrée de gamme.
Ce qui serait loin d'être une mauvaise stratégie.
Bien, tu sais, en même temps, un modèle à traction pourrait venir rivaliser avec ce qu'on propose chez Nissan, avec le Kicks, le Hyundai Venue, ces trucs-là.
C'est comme un nouveau sous-segment.
Bon, parce que c'est un modèle de vieille génération. C'est pas un modèle qui est dépourvu de qualité, mais on est à l'étroit là-dedans, ça n'a aucun sens. Puis c'est pour ça que les Américains ne l'achetaient pas.
On est d'accord.
Parce que tu ne peux pas enlarger your size dans un restaurant comme chez Wendy's aux États-Unis puis penser que tu vas mettre ton 2 litres de liqueur dans la console.
Ça
c'est
va
impensable,
pas
ça
bon
marche
gobelet.
Pas. C'est trop petit ce véhicule. Excuse-moi l'expression, mais j'aime tellement ça quand tu arrives dans un restaurant de restauration rapide aux États-Unis puis que systématiquement on te propose la frite de 3 livres puis la liqueur de 2 litres. Moi, je trouve ça incroyable. Enfin, bref. Alors, disons que c'est à contre courant avec l'habitude des Américains et c'est pour ça que le véhicule n'a pas connu de succès. Est-ce que le CX-30 va se vendre plus aux États-Unis? Honnêtement, je pense pas.
Non, parce que Mazda n'est pas très fort aux États-Unis.
Un puis deux, je veux dire.
T'sais, au Québec, on envoie des tonnes là, depuis 20 ans des Mazda, puis c'est un beau succès au Québec.
Oui, mais les ventes ralentissent.
Les ventes ralentissent, là, avec la 3, entre autres. Mais aux États-Unis, c'est pas...
Est-ce que les ventes de la Mazda 3 ralentissent sérieusement, on parle de presque 30 % de baisse de
vente. Le modèle est tout neuf.
Celle du CX-5 augmente, mais légèrement. Donc, le chiffre total de vente Mazda, puis je te parle pas de la Mazda 6 qui se vend plus du tout.
Quoi, elle existe encore?
On ne peut pas se fier sur les ventes du MX-5, on s'entend.
On est d'accord.
Et le CX-9, c'est un joueur marginal en termes de volume dans le segment des 7 passagers. Alors, les chiffres de vente de Mazda au total ne vont pas très bien. Et la stratégie de Mazda, c'est on nous dit, on va vendre un peu moins de véhicules, mais on va faire plus de profit par produit.
Ouais.
Et on va aller chercher une clientèle plus premium que ce qu'on
c'est
avait.
C'est facile à dire, là.
Ouais, mais là, on se rend compte que ça marche pas.
Il faut la convaincre, là, la clientèle qui va payer 46 000 pour un Mazda CX-5, là. Il faut la convaincre.
Ben, ironiquement, c'est probablement le seul véhicule chez Mazda avec lequel on réussit à aller chercher une clientèle un peu plus premium parce qu'un CX-5 signature, ça se vend quand même bien.
Okay.
Mais on réussit pas à séduire beaucoup d'acheteurs avec une Mazda 3 tout équipée.
À 30 quelques
Est-ce qu'on
$1000,
va réussir
là?
À le faire avec le CX-30? Moi, je pense qu'au Québec, ça va connaître un super succès, comme la Crosstrek. Je pense que c'est un véhicule qui est vraiment bien adapté à nos besoins. Mais encore une fois, je le mentionne, on est un peu à l'étroit. Moins que dans le CX-3, mais on se sent un peu à l'étroit, on se sent un petit peu écrasé dans le véhicule. Et moi, je te dirais que c'est un point qui m'agace un peu. J'adore cependant la position de conduite, la qualité de finition, la qualité de fabrication du véhicule. Avec le moteur 2.5, ça a du nerf. Ça, c'est un avantage.
C'est un bon moteur, ça, franchement.
C'est un avantage par rapport à la compétition, surtout par rapport à la Crosstrek, qui a un moteur 2 litres de 152 chevaux. Là, on va arriver prochainement chez Subaru avec le 2.5. Ça va faire du bien.
Enfin.
Mais chez Mazda, on va pouvoir obtenir un 2.5 à prix raisonnable. Puis c'est le fun à conduire. Disons que c'est pas mal plus inspirant qu'un HR-V, mais moins spacieux. Alors, je veux dire, ça va dépendre de quel sont...
Tu peux pas tout avoir.
Mais moi, j'ai l'impression que le CX-30 sera un succès beaucoup plus canadien qu'américain.
Mm-hmm.
Et pour l'entreprise, ça va être un problème parce qu'aux États-Unis, on va continuer à vendre des CX-5, des CX-9 et la balance ne se vendra pas du tout. Mazda est une marque qui est sur son déclin aux États-Unis, malheureusement. Et c'est un peu la même chose au Canada, mais pour des raisons différentes. C'est vraiment la Mazda 3 qui a été le pendant vers le bas parce que la Mazda 3, c'était une voiture à volume il y a seulement quelques années. Pour son prix attrayant, pour son agrément de conduite, mais les habitudes des acheteurs ont changé.
C'est dommage parce qu'elle est meilleure que jamais, finalement.
Elle est meilleure que jamais. Par contre, il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas le nouveau look.
Pour la version Hayon, parce que la berline, elle, reste...
plus conventionnelle. Et d'ailleurs, pour la première fois, on vend un peu plus de berline que de modèle hatchback. Donc, ça prouve un peu. Et moi, j'aime beaucoup le look du modèle hatchback, quoique sa visibilité est un problème.
Non, le look ne me gêne pas.
Mais j'aime beaucoup le look de cette voiture-là, différent.
Oui.
Pas mal plus inspirant que celui de la Forte 5, par exemple, qui est très standard, si tu veux,
d'accord.
À mon avis.
On est d'accord.
Mais c'est pas tout le monde qui mord à l'hameçon, évidemment. Toi, de ton côté, tu as conduit un véhicule. Là, on va hausser le ton pour parler, pour qu'on s'entende parler.
Oui,
le Mitsubishi RVR.
Oui.
Le pas du tout bruyant Mitsubishi RVR.
Bruyant à tous les points de vue. Autant le véhicule est mal insonorisé, mal isolé, mais le véhicule lui-même est bruyant. Des bruits de suspension. Il y avait beaucoup, là, en bon français, de bruit de caisse, finalement. Il y en avait de partout. En termes de finition, c'est vraiment, vraiment ordinaire comparé à la compétition.
Ah ben oui. On n'est pas
dans le game, là.
Il faut comprendre que ce véhicule-là utilise la plateforme de la Mitsubishi Lancer qui a été lancée en 2007.
Ouais.
C'est la même mécanique que la Lancer. Ouais. On a lancé le RVR en 2011. Depuis, on a fait deux ou trois retouches esthétiques. Et cette année, la nouveauté, c'est ça, dans le fond.
On a refait le
museau avant.
Sur le plan mécanique, ça reste identique. Puis, il n'est pas donné... Le RVR.
Ben, rapport équipement-prix n'est pas favorable du tout. Tu t'en vas chez Hyundai, c'est beaucoup plus alléchant.
Je ne sais pas si en concession, là, tu sais, on te présente des rabais, des rabais du printemps, le rabais de l'été, est-ce qu'il y a un rabais pour chacune des saisons? J'en ai aucune idée. Mais tu sais, pour une version à roue motrice avant, qui est totalement inintéressante, parce qu'une des qualités de Mitsubishi, c'est peut-être justement son rouage intégral.
Oui.
Ben, c'est 25 000 pour un RVR à roue motrice avant. Si on veut une version all-wheel drive, ben, il faut aller on est rendu à 27 500.
Ouais.
Et la version que j'avais, elle, 36 000 $ c'est exagéré. Bon, c'est une version GT,
personne ne va acheter.
Mais ça reste un véhicule très ordinaire dans l'ensemble.
Il n'y a
rien qui... Tu sais, le bouton du siège chauffant, il fallait peser une fois, deux fois, trois fois pour que ça fonctionne. Pas du siège chauffant, du volant chauffant.
On a ajouté le volant chauffant dans cette version, d'ailleurs, et on nous l'a dit.
Ça. Ben, on l'a ajouté, mais ça fonctionne très mal. Tu pèses, puis il n'y a rien qui se passe. Il faut que tu repèses trois fois pour que ça... En tout cas...
Bon, rendu là, c'est un détail.
J'ai le plafonnier qui est tombé. Franchement, ça fait dur, là. J'ai essayé essayer de le replacer. Il est retombé une deuxième fois. C'est du bricolage.
Mais Mitsubishi,
c'est tout croche.
Ironiquement, pour avoir parlé à des gens à l'interne chez Mitsubishi, qui me disaient à mot couvert, écoute Antoine, on a changé des lumières, une grille, un capot. Puis les ventes sont reparties de plus belle.
Ben,
c'est de loin le véhicule le plus vendu. On en vend beaucoup plus que l'Eclipse Cross et l'Outlander. Puis c'est un véhicule...
Mais ça fait dur comme véhicule.
Mais c'est un véhicule qui, malgré son côté très archaïque et complètement dépassé, affiche une bonne fiabilité. Et Mitsubishi annonce présentement une garantie prolongée, sur, en fait, une garantie complète de 10 ans.
Oui.
Écoute, sur ces véhicules, donc d'un pare-choc à l'autre. C'est un sérieux incitatif pour acheter un véhicule. Pour quelqu'un qui cherche pas...
Qui va avoir la tête en paix,
tranquillité
l'esprit tranquille.
D'esprit. Parce qu'un Mitsubishi, on dira ce qu'on voudra, c'est fiable, ça coûte pas cher l'entretien, puis c'est bien garanti. Fait que ça, c'est des points...
Mais il faut vivre avec un tracteur.
Puis je veux dire, sans compter que la consommation d'essence, c'est pas sa plus grosse qualité non plus. Là. On parle d'une vieille mécanique qui n'est pas particulièrement frugale, si tu compares à justement au CX-30, qui est un rival,
qui est un véhicule plus moderne. Là,
légèrement.
Légèrement.
Légèrement. Alors, voilà.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Germain, évidemment, la crise actuelle affecte beaucoup de gens dans l'industrie. Bien, en fait, tout le monde dans l'industrie.
Absolument. Il n'y a personne qui n'est pas touché en ce moment par la crise.
Et évidemment, pour les concessionnaires automobiles, ça a un impact gigantesque. On a vu des groupes de concessionnaires mettre la clé dans la porte de façon temporaire, d'autres qui demeurent ouverts que pour des cas d'urgence. Et là, on se demande, évidemment...
Qu'est-ce qui est ouvert? Qu'est-ce qui est fermé? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire réparer?
C'est ça. Bon, puis y a-t-il des cas d'exception? Est-ce qu'on peut gérer chaque cas de façon spécifique? Pour y voir plus clair, on a décidé de parler au président du directeur général de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, que vous connaissez parce qu'il a déjà été ministre des Transports, M. Robert Poetti. Bonjour.
Bonjour, bienvenue parmi nous.
Bonjour. Bonjour à vous.
Bonjour. Évidemment, j'imagine que le téléphone doit sonner pas mal ces jours-ci, hein?
Oui, mais il y a quand même une équipe derrière moi, une équipe importante, et on est 100% opérationnel en télétravail. Donc l'ensemble des avocats qui répondent à des questions juridiques, l'ensemble des personnes spécialisées en ressources humaines répondent en ressources humaines, l'ensemble des gens qui sont affectés aux finances répondent aux concessionnaires. Donc on est opérationnel, tout le monde à distance, ça c'est... C'est une très bonne nouvelle. Et vous rappelez que l'industrie de l'automobile au Québec est la deuxième force économique, la première étant le milieu de la construction. C'est 40 000 emplois directs, c'est 100 000 emplois indirects. Donc, effectivement, vous avez raison de dire que l'impact est majeur actuellement.
Oh oui, l'impact est gigantesque. On le voit, nous, même dans notre milieu, on a des collègues journalistes qui temporairement ont vu leur poste aboli. Puis ça, c'est uniquement les journalistes automobiles, mais on compte par... Moi, j'ai dû recevoir une centaine de messages sur ma page Facebook d'employés de concessionnaires de la grande région de Montréal qui ont perdu leur emploi, qui ont peur de ne pas le retrouver, qui se retrouvent, évidemment...
Il y a une grande incertitude.
Sur une longue liste de chômage. Puis souvent, il y a des couples là-dedans. Il y a des couples qui se sont formés dans des concessionnaires. Les deux perdent leur emploi en même temps. C'est pas une situation très, très rose. Bon, évidemment, j'ai voulu vous parler, M. Poetti, d'abord parce que je suis tombé sur une vidéo très, très informatif et très efficace pour tous ceux qui travaillent dans l'industrie, qui a été mis sur YouTube il y a quelques jours. Et là, ce que je comprends, c'est que ces vidéos-là sont retirées et mises à jour de façon quasi quotidienne pour informer les gens de l'industrie sur ce qu'ils peuvent ou ne pas faire.
Exactement. Okay. Exactement. Vous avez raison. C'est notre façon, évidemment, de transmettre une information validée. Et je le souligne, là, validée. Parce qu'il se dit beaucoup de choses. Hein? Et nous, notre mandat, notre mission, c'est d'informer l'ensemble des 900 concessionnaires sur les règles et les directives gouvernementales. Je tiens à spécifier que la corporation, par l'ensemble de ses concessionnaires, on suit et on veut suivre 100% des directives gouvernementales. On comprend que c'est avant tout, une question de santé publique. Maintenant, il y a des besoins essentiels. Donc, dès le début, avant même que le décret C'est sûr que j'ai une déformation politique parce que je connais un peu les rouages de la politique. Avant même
un
que
peu,
le décret,
un peu.
un peu. Avant même que le décret soit publié, écrit ou diffusé, il y avait eu quand même une liste de services essentiels qui avait été émise.
Une liste qui était quand même assez exhaustive, mais qui portait à confusion, je pense.
Bien, c'est sûr. Moi, je me mets à la place du gouvernement. Là, c'est pas facile là, de dire, bon, on inclut ça, on l'enlève, pourquoi, pour ci, pour ça. Donc, je donne un exemple au paragraphe qui touchait les transports, donc qui touche les concessionnaires. On disait station-service, on disait les garages pour la mécanique qui étaient autorisés. Puis, un peu plus loin dans la phrase, on disait pour les industries reliées aux services essentiels.
Ouais.
Alors là, ça, quand vous le lisez comme ça, la première journée, ben vous comprenez qu'on doit donner de la mécanique pour les gens qui sont listés dans cette liste de services essentiels. Maintenant, station-service, est-ce qu'elle mettait de l'essence juste aux médecins, aux pompiers, aux policiers, à l'infirmière ou on en mettait à tout le monde? Alors, on a réussi à faire définir, puis c'est pas simple, là, mais faire définir que pour un déplacement essentiel, exemple, votre père a 70 ans, 72 ans, vous allez lui porter sa nourriture ou ses médicaments. Vous n'êtes pas une personne de service essentiel. Votre véhicule tombe en panne, ça s'est produit. Est-ce que le concessionnaire a le droit de le réparer? Alors, aujourd'hui, on a réussi à essayer de faire expliquer davantage. Donc, ce qu'on dit maintenant au concessionnaire, c'est que toute personne qui a un déplacement essentiel, qui a une problématique mécanique, je parle pas des ventes ici, on en parlera tantôt, une problématique mécanique, vous pouvez le réparer, vous pouvez le faire. Alors, est-ce que là...
est-ce que chaque personne doit justifier son cas en arrivant au concessionnaire,
là,
par exemple?
Mais là, rendu là, il faut faire aussi appel au gros bon sens. À l'occasion, il arrive une personne qui en manque, là. Mais de façon générale, là, les gens comprennent bien qu'on est en avant d'une situation mondiale de pandémie.
Ben oui.
Donc, alors là, le concessionnaire n'est pas un policier là, au sens de la loi, mais évidemment, il comprend bien quand que la personne arrive, elle n'avait pas de rendez-vous, elle n'a absolument rien. Elle me dit, ah, ben, j'ai décidé de venir faire mon changement d'huile, je n'avais rien à faire.
C'est pas essentiel, là.
Autrement dit, on ne limite pas la mécanique qu'aux médecins, qu'aux policiers, qu'aux infirmières. Quelqu'un qui, par exemple, aurait un problème mécanique mineur ou majeur, mais qui empêche son véhicule de se déplacer, peut...
Question de sécurité.
Question de sécurité. Moi, j'ai l'exemple en tête de quelqu'un qui me disait « Je dois utiliser le véhicule de mon mari parce qu'ironiquement, ma voiture est au garage et le garage est fermé. Puis le véhicule de mon mari, ses quatre pneus d'hiver sont finis à la fesse. Je peux pas me promener avec ça, c'est dangereux. Est-ce que j'ai le droit d'aller faire remplacer les quatre pneus? » Donc, la réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui. Parfait.
Oui, vous avez tout à fait raison. Complètement. Maintenant, vos pneus sont en bon état. Et d'hiver, puis lui dit, ben moi, j'ai rien à faire, mais aller faire changer.
Ah ben non. C'est une question de gros bon sens, là. T'as envie de faire modifier ta suspension, puis tu veux faire baisser ta suspension parce que tu trouves que ta voiture serait plus cool de même. Attends un peu.
C'est pas une raison valable. Mais j'ai un cas de figure pour vous, M. Poetti. Si on prend, par exemple, un automobiliste dont le véhicule subit un accident, le véhicule est perte totale, a besoin d'un véhicule de remplacement assez vite, disons, est-ce que il peut se rendre dans un concessionnaire pour s'en procurer un?
Oui. Et même, si son assurance dit, bon, ben écoute, on le déclare perte totale, tu as, moi, je sais pas, je dis n'importe quel chiffre, 20 000 pour ton auto, tu peux t'en acheter une autre, ben il peut faire une transaction en ligne. La majorité des concessionnaires qui sont ouverts actuellement, c'est sûr, des fois, on parle de grands groupes parce qu'il y a plus de monde au niveau technologique. Ils le faisaient déjà pour une grande partie.
Ouais.
C'est-à-dire qu'ils faisaient une grande partie. Vous savez, quand vous magasinez un véhicule, qu'est-ce que vous faites en premier lieu? Vous allez sur Internet, vous allez voir le concessionnaire, vous allez voir les modèles, la couleur, les options, les prix.
On lit le guide de l'auto aussi.
Ben, très bon guide de l'auto. Alors, je suis un passionné. Alors, moi, je veux dire que c'est très bien. Moi, j'ai une collection... C'est pas bon pour mon âge, là, si vous saviez, moi, le premier que j'ai. Là,
c'est d'ailleurs le moment de la revisiter, là.
C'est ça.
Ouais. Et là, la personne peut faire une transaction en ligne. Actuellement, est-ce que ça serait légal? La vérité, c'est non. Parce que l'Office de la protection du consommateur, dans sa loi, spécifie que la signature du contrat final doit se faire en concession.
Oui, voilà.
On ne parle pas. Alors là, la loi, c'est ça, elle n'est pas changée, là. Elle ne changera pas demain matin. Maintenant, on a eu des discussions avec l'Office de la protection du consommateur. Ce qu'ils nous disent, C'est qu'écoutez, la loi, c'est ça, et c'est exact. Maintenant, l'application de la loi durant cette période-là va être faite avec discernement et jugement.
Ouais, ouais,
donc, alors, on peut comprendre qu'entre les lignes, pour une période temporaire, c'est mon interprétation, je ne crois pas qu'il y aurait de pénalité pour une vente en ligne à 100%. Et ça, ça se fait parce que il y a des gens qui le font actuellement. Vous aviez commandé votre véhicule, puis vous savez, le printemps, c'est pour nous la période la plus occupée.
Bien sûr.
Vous saviez que votre location arrivait à la fin au mois de mai ou avril. Et là, vous savez déjà le véhicule que vous voulez en général. Vous l'avez commandé. Et là, vous êtes prêt à faire le changement. Bien, le changement peut se faire en ligne de façon à ce qu'il n'y ait pas de contact physique. Ça, c'est actuellement, c'est fait. Et c'est
mais quand vous me dites de façon à ce qu'il n'y ait pas de contact physique, on s'entend qu'il faut qu'on ait porté le véhicule de location et qu'on reparte avec l'autre. Veux pas, il va y avoir contact.
Oui. Là. Mais entre le client et l'acheteur puis le vendeur, il n'y en a pas. Je vous donne un exemple. Moi, je l'ai validé. Alors, il y a deux personnes. Donc, ils descendent avec le véhicule neuf qui est enveloppé. Je suis allé même, moi, pour la veille que les garages ferment à minuit, j'ai eu une crevaison, donc la journée même, j'étais assez content que je pouvais le faire avant minuit.
Ouais.
Et quand ils ont pris mon véhicule, quand il est revenu, il dit « votre véhicule a été complètement protégé ». Il y avait une pellicule de plastique sur le volant, sur le siège, ma porte avait été nettoyée. Donc, il y a des mesures sanitaires qui sont prises. Alors, c'est ce qui se passe, on livre le véhicule de cette façon-là, et il y a une enveloppe qui est laissée sur le siège, la personne prend l'enveloppe, fait la signature du document, remet le document sur son siège de voiture qui doit partir, et le deuxième conducteur, ben, prend le véhicule, puis le ramène au bureau, puis lui, ben, alors, tu sais, est-ce que c'est simple complètement?
Vraiment dit, il n'y a pas de, en bon français, il n'y a pas de walk-around qui est fait sur le véhicule, puis le vendeur ne programmera pas votre téléphone dans le véhicule.
Il n'y a pas de grosse poignée de main à la fin de la transaction non plus.
Non, et tu sais, pour avoir un bon coup de pied, là, mais c'est pas ça.
ça
se fait pas, là. Je fais une blague, les gens commencent à se donner des petits coups de pied, mais l'idée, non, il n'y en a pas. On comprend qu'il n'y en a pas, puis c'est correct, il faut que ça soit comme ça. Alors, à ce moment-là, mais après ça, on va rattraper ce temps-là, puis les gens vont connaître leur véhicule, mais ça se fait.
Autrement dit, on a réussi à faire en sorte que l'industrie automobile, bien sûr qu'elle est touchée parce que tout ce qui n'est pas essentiel peut être mis sur la glace, mais on peut quand même se magasiner un véhicule. On peut
ça demeure
quand même,
fonctionnel.
On peut quand même faire réparer son véhicule si besoin il y a de façon plus urgente. Et je pense aussi qu'au niveau de la carrosserie, là, il y a des choses qui ont changé tout dernièrement, là.
Oui, ça c'est effectivement, voici un bel exemple de changement dans la première communication que j'ai faite aux membres, parce que la corporation représente 170 débosseleurs du groupe Car Expert.
Ouais.
C'était on ferme. Donc, ils ont tous fermé à minuit. Mais deux jours plus tard, on a reçu une directive gouvernementale qui permettait les compagnies d'assurance ont travaillé aussi le dossier de dire que c'est un service essentiel au niveau de leur responsabilité. Donc, les débosseleurs sont ouverts actuellement. Maintenant, aussi, là, c'est pas tout simple parce que votre véhicule est au débosseleur, vous avez besoin des pièces. Donc, actuellement, j'essaie d'avoir le chiffre juste, mais vous donner le dernier que j'ai. Il y a à peu près 75% des concessionnaires qui sont fermés actuellement. Alors, c'est beaucoup, là. Alors, donc...
Vous êtes quoi, 65%?
Ah, entre 65, 70, 75% qui
quand
sont
même.
Fermés actuellement.
Qui sont fermés totalement?
Totalement. Et... Alors, c'est-à-dire que, oui, certains travaillent en ligne.
OK.
D'autres ont une ou deux personnes. Ça dépend des régions. Si on parle de Montréal, qu'on parle du Lac-Saint-Jean. Bien, Lac-Saint-Jean sont fermés à peu près à 85%, 90%.
Mais ça, c'est un choix qu'ils font d'être fermés, non?
Oui, puis des fois, ils n'ont pas le choix.
Okay.
Il y a des employés aussi qui, dans certains cas, disent « Moi, je t'inquiète, puis je dois rester à la maison. Ma femme est infirmière, ma conjointe, mon conjoint doit... Moi, il faut que je reste à la maison. » Puis il y a des gens qui vivent cette période-là plus difficilement. Alors, c'est normal et compréhensif. L'être humain, il faut en tenir compte, là. C'est pas des machines, les gens. Alors, à partir de là, il y a certains employés qui préfèrent être à la maison. Donc, il y a aussi une problématique d'avoir du personnel pour faire le travail. Et à partir de là, il y a aussi sur le plan financier. Il y a des groupes actuellement ou des concessionnaires, là, chaque jour qui passe, les acculent au mur sur le plan financier.
Bien sûr.
Et vous savez que l'industrie de l'automobile au Québec, c'est 20 milliards le chiffre d'affaires. Ce n'est pas 20 milliards de profit, comprenez ça, mais ce que ça fait rouler comme argent, c'est 20 milliards.
Et là, tout est arrêté.
Puis là, on comprend, on se rend compte, je trouve ça particulier, puis vous pourrez commenter là-dessus, parce que je serais curieux de vous entendre, mais évidemment, de plus en plus, on voit chez les concessionnaires automobiles des gros groupes s'installer. Et les plus petits joueurs, les individus qui ont une seule concession, eux, sont pas relégués aux oubliettes, mais deviennent de plus en plus marginaux. Sauf que dans une situation comme celle qu'on vit présentement, d'être propriétaire de 18, 20, 25 concessionnaires, là, ça coûte cher. Là, ça commence à être problématique parce qu'il y a de la gestion de personnel, parce qu'il y a des frais qui sont...
Il y a de l'inventaire à supporter aussi. Là.
Ouais. Ben là, vous soulignez l'inventaire. Je connais personnellement un groupe qui n'est pas un groupe de 20 concessions, qui a 30 millions de valeur d'inventaire sur ses terrains.
Imaginez.
C'est 30 millions. Alors là, vous comprenez qu'il faut travailler avec les constructeurs, parce que bon, dans certains cas, évidemment, les constructeurs ont un rôle à jouer important, mais le temps que vous avez le véhicule sur le terrain, vous avez une responsabilité aussi financière. Alors là, il faut regarder ça. T'sais, vous savez, quand j'entends les villes, puis tout le monde a cette façon d'effort, je suis pas critique, là, mais on dit les vraies choses. On reporte les taxes là en juin.
Ouais.
Mais en juin, on n'aura pas plus vendu d'auto à ce temps-ci. Là, je dis dans le sens que les ventes ne se font pas là. Donc, vous, tu sais, c'est comme si les cartes de crédit, ils vous disaient, ben vous pourrez payer juste dans 3 mois. Mais la réalité, est-ce qu'on pourrait baisser les taux d'intérêt? Je sais que le fédéral travaille là-dessus. Est-ce qu'on peut essayer d'assouplir? Tu sais, est-ce que pour une période d'un mois, deux mois, trois mois, au prorata, les villes pourraient ne pas charger le compte de taxes pour la période où les concessionnaires sont fermés?
Ouais.
Puis je parle des autres industries aussi. Il faut comprendre, là. Il y a quelque chose de majeur. Reporter pour une semaine, c'est une chose, mais on n'est pas là, là.
On a vu certains constructeurs comme Ford, par exemple, être plus accommodants, si on veut, sur les paiements. Est-ce que, pour vous, c'est une mesure qui est suffisante ou les constructeurs devront faire plus?
Parce que là, on annonce, par exemple, Hyundai et Ford promouvoient leurs véhicules neufs en disant vous pouvez commencer à payer dans 6 mois. On paye par en avant, finalement.
Oui.
Oui, mais en même temps, j'ai vu pas de paiement pendant 3 mois. Donc, vous payez pas les 3 premiers mois, puis vous avez les 3 autres mois reportés. Alors là, ça commence à être, guillemets, je vous dirais, des bonnes initiatives, intéressantes. Bon, il y a une saine compétition entre les constructeurs, on le sait. Alors, tant mieux. Si les autres, si ça permet aux consommateurs minimalement de gagner un peu, là, parce que eux, tout le monde est ébranlé, mais en même temps, vous savez, l'automobile, c'est pas que pour le plaisir, ben, pour certaines personnes, oui, là, mais c'est aussi un besoin essentiel. Vous savez, à Montréal, là, les gens disent on a du bon transport en commun. Actuellement, la dernière affaire que je pense qu'il faut faire,
C'est prendre le transport en commun.
Puis vous avez pas besoin de me convaincre là-dessus. Moi, je l'entends beaucoup, le fait qu'une voiture, c'est un luxe, qu'on pourrait s'en passer. C'est correct. Surtout ces temps-ci, mais si vous sortez de l'île de Montréal, une voiture, c'est pas le choix.
Il y a même plusieurs secteurs de Montréal qui sont très mal desservis par le transport en commun. Et pour tous ces gens-là, ben, l'automobile est essentielle pour assurer les déplacements.
Non, puis moi, je parlais hier avec un mécanicien qui travaille dans un petit garage de mécanique où il y a 2 portes. Puis lui est forcé de fermer, mais en même temps, il sait qu'il y a des clients qui ont des besoins criants. Alors, ses portes de garage sont fermées, mais il y a une voiture à l'intérieur sur laquelle il travaille. Il reçoit ses pièces par en arrière, puis il ne faut pas que ça se voit. Mais les gens ne sont pas au courant actuellement.
Mais il a le droit. Il a le droit de faire ça. En fait, il participe d'une certaine façon à l'effort collectif d'être capable de s'entraider tous et chacun.
C'est ça.
Et quand je disais tantôt là que la personne qui va faire chercher la commande, les victuailles pour ses parents, c'est un service, c'est un déplacement essentiel. Faut pas jouer sur les mots, là. C'est pas un service essentiel, mais la vérité, c'est un déplacement essentiel. Ça l'empêche son père de 72 ans ou 75 ans d'aller à la pharmacie. Hey, c'est terrible, j'entends qu'il y a des gens âgés qui se font un peu bousculer verbalement parce que vous êtes âgés, les gens ont pas compris, là.
Oui, on n'a pas tous un enfant qui est prêt à aller faire
des affaires. C'est sûr qu'il y a des situations qu'on voit. Moi, je vais vous donner l'exemple. Hier matin, du gars qui est venu livrer un Publisac à la maison, j'ai fait Déjà que c'est pas essentiel quand je le reçois de façon normale, là, je m'en serais vraiment passé. Pourquoi je reçois mon PubliSac, moi, aujourd'hui? Mais il y a d'autres situations où, évidemment, qu'une voiture fonctionne, je pense que c'est essentiel. Bien sûr que c'est pas le moment d'aller t'acheter un aileron puis des fog lights, là.
Mais en même temps,
si tu as un bris d'alternateur puis que tu as besoin d'un alternateur, tu dois pouvoir te procurer la pièce, d'une chose. Deuxièmement, tu dois pouvoir la faire installer si tu n'es pas mécanicien toi-même. Parce que là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a bien des gens qui ne savent pas, qu'il y a beaucoup de garages de fermés. Les gens vont quand même se procurer la pièce, s'improvisent mécanicien, essayent d'arranger ça et ça cause des problèmes. J'en ai entendu beaucoup aussi comme ça. Puis ça fait à peine une semaine, c'est commencé.
Oui, puis aujourd'hui, je vais vous le dire, là, il y a quelque chose de technologique avec nos voitures, sont de plus en plus intelligentes.
Ouais.
On n'est plus comme dans le temps où on changeait nous-mêmes le set de filage, hein? Puis on changeait les bougies.
Ben, je vous dirais d'ailleurs que si vous essayez de changer votre filage sur votre voiture aujourd'hui, vous risquez de trouver ça difficile. Il n'y en a plus.
Ouais. Moi, la grande peine que j'ai, c'est que je suis un passionné d'automobile de toujours. C'est pas complètement un hasard que je me trouve là. Peu de gens savaient ça.
Ouais.
Mais ma grande peine, moi, maintenant, c'est quand j'ouvre le capot de mon véhicule.
On comprend plus rien.
Non, mais non seulement qu'on ne comprend plus rien, on ne voit plus rien.
Non, voilà.
Je ne vois rien. Alors, ce que ça dit, c'est que, et l'autre chose, là, question de sécurité, vous avez évidemment les détecteurs d'angle mort, vous avez les sensors, les détecteurs que vous avez au pare-choc, vous avez aussi des véhicules qui s'arrêtent tout seuls, mais là, vous décidez de jouer dans la mécanique. Non, faites pas ça, là. C'est une question de sécurité. Les freins, tu sais, dans le temps, tous les freins, c'est tout fait pareil. On n'est plus là aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que je pense que le gouvernement a bien fait la chose, dans le sens de dire, permettons aux concessionnaires, et en fait, ce qu'ils ont dit, c'est aux ateliers de mécanique de faire la mécanique. Maintenant, est-ce que, puis là, pour pas les nommer, de grandes entreprises qui sont pas des concessionnaires cumulent en ligne 20 personnes pour faire les changements de pneus cette semaine? Ben moi, je me questionne là-dessus. Parce que, ils sont où les gens qui attendent? Ils sont-tu dans la salle d'attente? Y a-tu 20 personnes?
Ouais.
C'est-à-dire que si on commence à faire des pneus, puis moi, je l'évalue bientôt, parce qu'en période d'été, c'est sûr qu'il n'y a pas de loi pour dire changer vos pneus, mais il y a des gens que leurs pneus, évidemment, en période d'été, vous le savez, l'usure des pneus prématurés est importante. Si la chaleur est là, et puis on roule encore avec nos pneus d'hiver...
Ouais, une question de sécurité, les pneus vont fondre.
Fait que là, il va falloir préparer un protocole pour on va voir dans les semaines à venir pour dire mais comment on pourrait faire les changements de pneus. Mais il y en a qui ont l'air à s'en foutre pas mal de grandes surfaces, qui disent, nous autres, let's go, on le fait. Ça, je trouve que c'est opportuniste et c'est pas bon.
Oui, puis j'ai l'impression que très rapidement, ces entreprises-là, de toute façon, vont se faire pointer du doigt négativement et les gens vont s'en souvenir longtemps. Parce que il y a une sensibilité collective face à ce qui se passe présentement et il n'y a personne qui va être d'accord avec le fait que il y a des entreprises qui ne font pas attention. Ça, je pense qu'aujourd'hui, là, on est tous conscients que c'est inacceptable. J'aurais une dernière question pour vous, parce qu'évidemment, l'industrie automobile, particulièrement au Québec, compte tenu du fait qu'on a un taux de change défavorable par rapport au marché américain... Il y a plusieurs concessionnaires qui se sont développés un plan d'affaires où on va vendre un maximum de... Je prends surtout l'exemple des camionnettes, là, Série F, Silverado, Ram. On vend un camion chaque 6 mois à un client en reprenant la location au bout de 6 mois pour ensuite le revendre aux États-Unis. Et le plan d'affaires du concessionnaire est développé comme ça. Je veux dire, il n'y a pas de choses... je ne vois pas d'aspect négatif à ça dans la mesure où c'est du commerce. Bien sûr qu'on affiche des chiffres de vente qui sont gonflés par le fait que c'est pas 150 000 acheteurs de série F qui sont procurés des série F cette année. C'est peut-être 80 000 qui en ont acheté, puis il y en a une partie qui sont partis aux États-Unis. Donc, ça stimule l'industrie comme ça, puis on fabrique plus de véhicules neufs qu'on devrait le faire. On peut dire ça comme ça. Mais là, actuellement, avec le fait que ces camions-là sont gelés à la douane, que les concessionnaires se retrouvent avec des inventaires de 4, 5, 6, 7, 800 camions gelés là qu'on ne peut pas vendre aux États-Unis, qu'on ne peut pas vendre dans les encans américains, est-ce que vous craignez qu'il y ait plusieurs de ces concessionnaires-là qui ne passent pas à travers la tempête?
Mais il y a un risque. Vous avez raison. Il y a un risque. Le risque est là. Vous savez, on n'est pas différent des autres marchés du commerce au détail. C'est pourquoi, actuellement, puis le premier ministre l'a dit, puis je réitère, achetons québécois le plus possible, qu'on s'entraide actuellement là, pour être capable de fonctionner. Puis l'autre chose que je veux souligner, puis je veux pas faire de kilométrage avec ça, mais je veux vous dire que les concessionnaires sont proches de leur communauté dans bien des cas. Et j'ai des exemples extraordinaires où plusieurs concessionnaires partout au Québec actuellement fournissent des véhicules à des pharmacies, des marchés d'alimentation.
J'ai vu ça passer aussi. Franchement, c'est des belles initiatives.
Bien, je dis juste que ce que je veux vous dire, c'est qu'on est avec les citoyens, puis on est comme eux. Il n'y a pas une question actuellement de... Vous savez, les artistes qui font des dons, qui ont des moyens qui sont quand même très grands, des entreprises qui font des dons. Je voyais tantôt à la télé une grande entreprise, je pense que c'est la Baie du Tisson. Je ne veux pas me tromper, mais je pense qu'on parle $1 million. Mais je pense que c'est tous ensemble qu'on va réussir. Donc, nos concessionnaires sont partants aussi dans ça et aident énormément la communauté. Vous savez, la pharmacie a fait de la livraison, mais là, comprenez-vous comment est-ce qu'ils reçoivent d'appels, parce que des véhicules de livraison, il n'y en avait pas une trolley. Le métro, l'IGA, les marchés d'alimentation qui font la livraison, c'est extraordinaire parce que, dans le fond, vous avez moins de gens qui circulent. C'est ça l'objectif du gouvernement. Il faut qu'il y ait moins de monde qui se promène. Alors, moi, ici, dans le condo, ben quand le métro vient livrer, il y a 25 bacs de plastique pour 25 condos différents. C'est une personne qui met ça devant ta porte. Donc, tu viens éliminer, justement, les contacts physiques. Fait que les concessionnaires aident énormément la communauté dans ce sens-là. Puis, on va continuer de le faire.
Bien, Monsieur Poetti, merci. Merci beaucoup pour votre temps. Puis on va inviter les gens, tous les gens de l'industrie, à évidemment aller voir vos vidéos quotidiennes sur YouTube. Donc, vous
tapez... Oui, parce que j'imagine qu'il va y avoir là, d'autres mises à jour là, dans les prochains jours, les prochaines semaines même. Là.
Donc, rappelez-moi ce qu'il faut taper sur YouTube là, pour aller voir votre vidéo là, pour qu'on puisse la partager.
Bien, actuellement, je vais être honnête avec vous, nous, on donne l'information à nos concessionnaires. Je veux dire, moi, je représente des concessionnaires. Évidemment, quand vous envoyez ça à 900 concessionnaires, ben, il y en a qui le relaient sur YouTube. Je n'ai pas de misère parce que moi, j'assume ce que je dis. J'assume complètement ce que je dis. Puis ce qu'on fait, puis je veux juste vous dire que nous, ce qu'on dit, on le valide avant. C'est, j'ai appris ça dans ma vie à bien des égards, alors on valide. Mais maintenant, est-ce que les choses changent? C'est vrai, mais ce que vous me donnez comme idée, c'est peut-être effectivement faire des capsules pour le grand public aussi, pour leur donner l'information des concessionnaires, puis ça, on est capable de travailler en ligne actuellement pour faire ça.
Puis tout merci ça, beaucoup. Tout ça peut être visionné sur la chaîne YouTube de la Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec.
Oui, exact. Voilà.
Bien, merci beaucoup, M. Poetti, pour votre temps. Et puis, ben, je m'en allais vous dire bonne route, mais ça sera pour plus tard.
Bonne gestion de crise.
En fait, je vous dirais que je lave plus mon véhicule dans le garage actuellement, mais il ne se lit pas bien.
Oui, c'est ça. C'est parfait, ça. OK, salut, je vous remercie. Bien. Au revoir. Bye
bye. Merci, ciao, M. Poetti.
Antoine Joubert, Germain Goyer. Des vrais gars de char. Le guide de l'auto.
Germain, on revient maintenant sur, l'annulation du Granby International.
Ouais.
Moi, ça m'a fait évidemment beaucoup de peine étant invité d'honneur là-bas depuis plusieurs années. Je suis impliqué dans cet événement-là. Et bien sûr que ça a été un choc pour tous les amateurs d'événements automobiles estivaux au Québec parce que c'est un peu le pouls de tout ce qui se passe.
Ouais.
Cet événement-là est un des plus gros avec les Belles d'autrefois à Québec. Ça, on n'a pas annoncé officiellement que ça serait annulé encore, mais c'est une question de temps parce que ça se passe un mois plus tôt.
Oui.
Ça se passe cette année à l'Expo-Cité, fin juin. Est-ce que ça va avoir lieu? Moi, j'ai des doutes sérieux là-dessus. Et ça,
on
ça
dirait que tout l'été est basé sur Granby. T'sais, personne n'allait placer ses dates d'exposition le même week-end de Granby parce que tu savais que ce week-end-là, tous les amateurs de voitures anciennes se retrouvaient à la même place.
Voilà. Puis moi, j'ai parlé à Denis Fauss, qui est le président de l'événement, qui est le président du club VAG, donc voitures anciennes de Granby, qui mentionnait d'une part avoir toujours utilisé le même week-end depuis 38 ans, c'est toujours la même fin de semaine, même si les vacances de la construction ont bougé de temps en temps. On a toujours gardé la même fin de semaine. Il n'est pas question non plus de déplacer l'événement à une date ultérieure parce qu'on ne veut pas, par respect pour les autres événements, empiéter sur d'autres événements qui pourraient avoir lieu. On a pris une sage décision d'arrêter, de ne pas mettre en place les événements du Granby International cette année parce que d'abord, on mentionnait qu'il y a plusieurs centaines de bénévoles qui sont des personnes âgées,
voilà,
qui ont des craintes par rapport à ça, que ça implique tellement de gens et de commanditaires et d'exposants qu'on ne peut pas prendre le risque que l'événement ne fonctionne pas. On est capable de composer avec une météo qui n'est pas favorable.
Oui, parce que même s'il pleut à boire debout, il y a du monde.
Les gens, ils vont pareil, mais moins que s'il fait
moins, on est d'accord.
Mais en moyenne, c'est un événement qui attire 35 000 personnes.
Oui, puis sur 3 jours, il ne pleuvra pas à boire debout 3 jours.
Non, c'est ça. Puis ça attire 35 000 personnes, le Grand Bay International, et sur...
On annonce 3 000 voitures aussi.
Il faut avoir plus de 20 000 personnes pour, en bon français, break even.
OK.
Pour pas perdre d'argent avec cet événement-là, parce que, évidemment, avec l'achalandage qu'il y a là, avec la quantité de gens, de voitures, d'exposants, ça demande une logistique, ça demande juste les coûts des assurances. Fais juste penser à ça.
Oh, oui.
Il y a beaucoup, beaucoup de frais qui sont impliqués là-dedans. Alors, on ne pourrait pas faire un mini Grand Bay. Où on coupe? Qu'est-ce qu'on fait? C'est trop risqué. Et de toute façon, M. Foss et son comité sont d'avis que, encore au mois de juillet, on va avoir des répercussions majeures du COVID-19.
C'est bien plate,
j'ai
là,
pas
mais...
le choix d'être un peu d'accord avec eux. Fait que là, évidemment, les commentaires ont déferlé sur Internet par milliers. Bon, on va avoir un maudit été plate. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, écoutez, comprenez que ce n'est que partie remise. L'année prochaine, ce sera le 40e anniversaire du Grand Bay International, mais la 39e édition, parce qu'il n'y en aura pas eu cette année. Donc, on nous promet, dit-on, quelque chose de spécial à ce niveau-là. On va ramener la même formule, mais probablement avec des attractions, des activités spéciales. Et puis moi, ben écoute, l'idée que j'ai eue à la lumière de ça, à la lumière du fait qu'on constate qu'il y a bien des événements automobiles comme ça, surtout ceux d'envergure qui vont être annulés, parce que les événements un peu plus locaux ou qui demandent moins de logistique, peut-être qu'ils auront lieu si, évidemment, la crise est passée.
Oui, parce que si vous étiez quelques dizaines à aller dans le stationnement d'un ancien Target, bien ça peut reprendre assez facilement sans problème.
Non, ça va, mais je veux dire, puis même des...
Mais quand il y a une logistique de plus grande envergure qui est comme Grand Bay, justement... Ouais. Bien là, ça implique qu'on prenne une décision maintenant et pas la veille de l'événement.
Je fais juste imaginer à tout ce qui se passe aux États-Unis, ceux qui sont habitués d'aller à l'événement du lac George. Bon, il va arriver quoi avec ça? Parce que les États-Unis, c'est un sérieux problème. Là. C'est un sérieux problème en ce moment. Est-ce qu'eux, ils vont vivre avec les conséquences du COVID-19 plus longtemps que nous?
Peut-être bien.
J'ai le feeling que oui. Puis ça, c'est toute une question d'impression. Pour l'instant, on ne peut pas le savoir vraiment. Mais moi, mon idée toute simple, c'est de dire aux gens, écoutez, c'est l'occasion ou jamais de sortir votre voiture et dérouler.
Au lieu d'aller se stationner sur un terrain gazonné puis s'asseoir sur une petite chaise pliante en arrière, pourquoi pas
rouler vos voitures, aller voir du pays, rouler au Québec, aller encourager les commerces, les artisans du Québec, arrêter prendre un café dans des petits cafés plutôt que d'aller... nommer de chaîne dans
des
les grandes commandes
bannières,
à l'auto.
Qui portent des noms dans ce qu'il y a.
Prenez le temps d'aller encourager les Québécois parce que tout le monde va en avoir besoin.
Ouais.
On s'entend que tout le monde va avoir une envie criante de sortir dehors, d'aller voir du pays, d'en profiter.
Puis ces gens-là vont vous accueillir probablement à bras ouverts.
Puis tu sais, moi, il y a un gars qui me disait hier, pas plus tard qu'hier, « Ah ben moi, il est hors de question que je sorte mon coronet s'il fait pas beau. » Hey,
le coronet t'attrapera pas le virus, on est correct.
Une voiture, c'est fait pour rouler.
Voilà.
Sacrez-moi patience, là. Oui. Je comprends que dans
la neige, là, c'est pas fait
bon,
pour ça, là.
Mais en même temps, là, des voitures, c'est fait pour rouler.
Oui.
Puis c'est le moment ou jamais de profiter de ces autos-là.
Oui.
Puis j'ai bien de la misère à comprendre, moi, qu'un gars peut profiter de sa voiture en faisant juste la regarder.
Oui.
C'est une question de goût personnel, tu vas me dire.
Oui.
Il y en a que ils vont mettre la voiture dans une bulle de verre, puis il n'est pas question...
Oh oui, la transporter par remorque,
écoute,
puis on est d'accord.
Ben, puis ça, je comprends dans certaines situations.
Oui.
Là, mais je veux dire, je te parle pas des voitures d'exposition qui coûtent 500 000 $
Non, on est d'accord.
Mais une voiture, c'est faite pour rouler. Profitez-en. Allez voir du pays. Et écoutez, si la situation le permet, rassemblez-vous. Faites des joyrides en groupe profiter du beau temps, profiter de l'été comme on pourra le faire. Parce que c'est sûr que les gros rassemblements, ce à quoi on a été habitué au cours des dernières années,
ça va être
sérieusement affecté. Et j'espère que la semaine prochaine, si émission du Guide de l'auto, il y a encore, je pense que ça va durer, on aura peut-être quelques soupçons de bonnes nouvelles à vous annoncer par rapport à la situation actuelle.
Soyons optimistes.
Voilà. Et merci, un gros merci d'abord à Robert Poëti
pour l'entrevue. Éclaircir tout ça.
Parce qu'il fallait éclaircir une situation qui n'était pas évidente pour bien des gens. Germain, à la semaine prochaine.
Merci, bonne semaine, Antoine.
Salut.
Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit.
Et maintenant, autrement écouté.